fais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris?
Et vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive.
Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup?
Non, quoi.
La mayonnaise.
Les salauds.
Itinéraire croisé.
Bonsoir amis auditeurs du 93.9, soyez les bienvenus dans l'émission Itinéraire croisé, merci de votre fidélité à ce rendez-vous dominical à la rencontre des cultures d'ici et d'ailleurs. Ensemble on va passer 59 minutes pour être plus précis, 59 minutes pendant lesquelles on va tout savoir du pays de nos deux nouvelles ambassadrices. Avant de lever le voile sur leur identité, je vous invite à rejoindre la page Facebook de l'émission Itinéraire croisé au pluriel. Par exemple, vous pourrez voir Mickaël derrière la console lancer des jingles ou la musique. Ou encore Dania, vous pourrez discuter avec Dania. Dania qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est malade et on la salue bien. Et voilà, donc une seule adresse, Itinéraire croisé au pluriel sur Facebook, et je vous promets, on vous répondra. Mais pour l'heure, on va accueillir nos deux invités ambassadrices. La première s'appelle Roxana, elle vient de Roumanie, de la ville de Baia Mare. Salut Roxana.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
Donc, je suis Roxana Bota, je suis roumaine. J'habite en France depuis 2009. Je suis arrivée dans une bourse Erasmus. Donc, je continue mes études ici.
Des études de quoi?
Je fais un master 1 et 2 en sociologie et statistique dans un programme de master en partenariat entre trois écoles. EHESS, École Normale Supérieure et École INSAE. École nationale des études économiques et statistiques.
D'accord.
Donc voilà.
Qu'est-ce qu'on apprend en sociologie? C'est quoi pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Tu fais une thèse par exemple cette année? Est-ce que tu développes une thèse?
Une thèse? Je fais déjà la thèse.
Donc c'est sur quoi par exemple pour,
Oui, je fais...
C'est compliqué ou pas? C'est difficile?
Ben non.
Alors explique-moi.
Ça dépend. Donc je me suis spécialisée sur la sociologie quantitative. Et... J'ai travaillé sur la sociologie des réseaux.
Facebook,
donc,
Twitter, tout ça?
Non. Ah, sur les réseaux, ça implique aussi, mais sur la force des liens, en fait, entre les liens sociaux, entre les étudiants roumains à l'étranger et les autres membres de la diaspora roumaine dans leur pays d'accueil et les liens avec la Roumanie, en fait, pour tester la force des liens et l'intention de revenir ou de rester dans le pays d'accueil après la fin des études. Et donc, c'était ça la problématique de mon mémoire.
D'accord. Bah, c'est très intéressant. En plus, ça rentrera dans le cadre de la troisième partie où on parlera un petit peu de ton parcours et notamment de l'association LCRS, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
La Ligue des étudiants roumains à l'étranger. Et donc, c'est une ONG roumain qui est le forum officiel des étudiants et diplômés roumains à l'étranger.
Toi, tu aimes les voyages et la gastronomie.
Oui.
Alors peut-être dans la gastronomie, moi aussi j'adore la gastronomie, Roxana. Tu aimes bien le Cozonac? Quoi le Cozonac?
Oui. Le Cozonac, c'est un plat traditionnel roumain et c'est une brioche sucrée. Qu'on mange d'habitude pour le Noël, les Pâques ou les fêtes traditionnelles roumaines. Et c'est délicieux. Et donc,
D'accord. Peut-être que, je ne sais pas si elle en a mangé déjà du Cozonac ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a mangé des pastéis des nata. C'est notre deuxième invitée, c'est Christelle. Comment ça va, Christelle?
Ça va bien, merci.
Christelle, toi, tu es portugaise et tu viens de Lisbonne.
Oui.
Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
Je m'appelle Christelle, comme tu as bien dit, je viens de Lisbonne, je suis arrivée à Paris en 2010 pour faire ma licence en communication à la Sorbonne. Oui, j'ai déjà mangé des pastèches de nata, même si j'aime pas trop, alors voilà.
C'est la spécialité un petit peu locale.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, de Lisbonne vraiment, oui.
Et alors toi, pour les auditeurs qui avaient suivi et qui suivent d'ailleurs Itinéraire croisé, on t'a déjà entendu dans l'émission, c'était en octobre, je crois, fin octobre, à la Nuit des étudiants du monde. Mmh. Et donc, ils te connaissent déjà et ça fait plaisir qu'on te réinvite dans l'émission parce que c'était super sympa et on voulait en savoir plus encore sur le Portugal parce que dans cette émission, on a mélangé un petit peu, il y avait une Indienne, il y avait une Tunisienne et on voulait en savoir encore plus sur le Portugal, tout comme on veut en savoir plus sur la Roumanie, Roxana. Donc, vous l'aurez compris, nous allons faire un itinéraire croisé de Lisbonne à Baia Mare. Les filles, avant de commencer cette émission, vous ne dérogerez pas à la règle. Je vais vous demander de dire un mot dans votre langue maternelle, celui qui vous passe par la tête. Christelle.
Bon fin de semaine. C'est bon week-end. D'accord. Déjà qu'on est dimanche, alors...
C'est vrai qu'on voilà. est dimanche. Il fait toujours beau, d'ailleurs. On a la chance d'avoir une belle semaine. Et comment tu dis ?
Bon fin de semaine.
C'est un peu comme en français, j'ai l'impression. Oui, on dirait bonne fin de semaine.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça ressemble.
Oui, ça ressemble.
C'est très joli. Et Roxana ?
Je vais faire la traduction de ça. On dit Dominica Placuta.
Dominica Placuta ?
Dominica Placuta.
Ah, c'est mignon.
Plus difficile quand même.
C'est un peu plus compliqué, mais c'est mignon. Dominica Placuta. Voilà, vous savez dire maintenant bonne fin de semaine. Au lieu de dire bon week-end, tout le temps, on utilise un mot anglais. Bah, utilisez un peu des langues étrangères. On va passer à vos villes d'origine. Alors, je le disais, on fait un itinéraire croisé de Benfica. Je commence, tu vois, déjà, je commence à parler de football, Christelle. Non, de Lisbonne, parce que je supporte Benfica.
Ah, bah, c'est bien, moi aussi.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
On a un point commun. En plus, ils sont premiers du championnat.
Voilà.
Contrairement aux autres années où Porto a chaque fois gagné, très mauvaise
année. Cette année, ça va être Benfica, c'est vrai.
Bon, on croise les doigts. Donc, je disais, c'est un itinéraire croisé de Lisbonne à Baia Mare. Baia Mare, c'est une ville qui est située au nord de la Roumanie, près de la frontière ukrainienne et hongroise. À quoi ça ressemble, Roxana ?
La ville ?
Oui.
Donc, la ville de Baia Mare, c'est une ville de taille moyenne. C'est une ville à la base minière. Elle est entourée maintenant de montagnes qui ont des ressources aurifères, des métaux aurifères. C'était aussi une ville industrielle. Pendant la période communiste, il était les centres principaux, un des centres principaux d'exploitation minière.
Donc, c'est pas très urbain, quoi, en fait, Baia Mare, non ? C'est pas par rapport à Paris. On dit de la Roumanie que c'est un des pays le moins urbain comparé aux autres pays européens.
Non,
c'est très urbain.
Oui. Il est développé. Il est déjà un centre académique et culturel important pour la région nord-ouest de la Roumanie, surtout touristique parce qu'il est situé dans le département Maramureș.
Oui.
Qui est un département très riche on conserve très bien les traditions. Et donc, c'est un terrain très riche pour les anthropologues, pour les ethnologues et aussi pour les touristes qui sont vraiment attirés pour découvrir l'authenticité de la Roumanie et des symboles de ce pays.
Ça, c'est un point commun que vous avez déjà avec Christelle. C'est vraiment le côté tradition. On va à Lisbonne pour la tradition, en fait, Christelle.
Oui, c'est vrai. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, d'ailleurs, à Lisbonne ?
En fait, Lisbonne, c'est une ville à côté de la mer. Alors,
c'est très cosmopolite, déjà.
Ah oui, ça, c'est vrai, oui. Et surtout que c'est une ville où l'architecture, elle est très traditionnelle, dans le centre de Lisbonne surtout. C'est toujours des maisons assez vieilles, rustiques. Mais après, la vie, elle est jeune, ça bouge tout le temps. Et c'est intéressant parce qu'on voit des touristes qui y vont pour ce côté un peu typique lisboète. Mais après, ils sont surpris parce qu'il y a de la vie partout. Alors, je crois que c'est le point vraiment intéressant de Lisbonne, c'est qu'on peut découvrir l'actualité dans l'histoire. Alors...
Et par rapport aux heures, en fait, c'est beaucoup plus tardif, en fait.
Oui.
La vie est différente, elle est plus nocturne, on va dire.
Oui, ça c'est vrai, ça m'a choqué quand je suis venue habiter à Paris, parce que ici, les magasins, ils ferment à 8h, 9h maximum. Là-bas, en fait, ils sont ouverts jusqu'à minuit facilement. Tous les centres commerciaux, les magasins, les cafés dans la rue, tout est ouvert jusqu'à très très tard. Parce que on travaille jusqu'à plus tard que les Français. On sort du travail normalement à 8h du soir. Alors après 8h, on sort, on va faire nos courses et tout ça. Alors oui, on a des horaires assez différents. Oui.
Et comment c'est la vie à Baia Mare, la vie commerciale, la vie, est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est animé ? Comment on a du mal à imaginer en tant qu'auditeur, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ? C'est vivant ?
Oui, très vivant. Il est comme un centre académique, il y a plusieurs étudiants et tout ça, et c'est un point commun avec Lisbonne. En fait, là aussi, il y a le magasin ouvert toute la nuit. On trouve à n'importe quelle heure tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Et aussi, la vie de nuit, les boîtes, les clubbings et tout ça, la Roumanie est très connue pour ça. Et moi, j'habitais pour moi, en fait, la maison, on dirait, c'est Baia-Mare et aussi Cluj, Cluj-Napoca, qui est le centre le universitaire le plus grand de la Transylvanie. En fait, moi, je fais mes études et licences là-bas, à Cluj-Napoca. C'est ma deuxième maison. Et donc, toute la région, en fait, de Transylvanie a le même esprit. En fait,
et, un esprit, un état d'esprit, comment tu le qualifierais? Festif,
cosmopolite.
Cosmopolite
oui,
aussi?
Oui, oui. Surtout à Cluj, où il y a un mélange, déjà un mélange de nationalités, des étudiants étrangers. Donc c'est vraiment, on ressent l'esprit occidental. Et la Transylvanie, comme est, c'est à la frontière aussi avec l'Autriche, l'Hongrie, tout ça. Et donc, c'est pas très, on dirait, ça ressemble beaucoup aux mentalités de l'Ouest.
D'accord.
On ne dirait pas que, en fait, voilà, c'est une grande différence entre la Roumanie et la France, par exemple. Il y a seulement un autre niveau de vie, on dirait, et c'est ça qui change en fait.
D'accord.
Pas vraiment de grandes différences. Oui.
Très bien, Roxana. Mmh. Roxana Christel, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ce que pensent les auditeurs de vos deux pays. C'est le micro-trottoir réalisé par Mickaël.
Je ne suis pas celle que vous croyez.
Si je vous dis Portugal, quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit?
Je sais pas, un beau pays.
On pourrait penser à Lisbonne.
La bulle, la crise. Le soleil,
la morue, le foot avec le FC Porto,
Cristiano Ronaldo,
poisson, au fado,
oui c'est vrai, au bacalao plutôt,
les poils.
Et paraît-il des gens gentils, mais on n'aime pas Barroso. Hein.
Notre deuxième invité vient de Roumanie cette fois, donc même question, Roumanie.
Oh Roumanie, je pense, je gagne des très mauvais pensées vers les Roumains, c'est incroyable.
Culture latine. Le rugby aussi.
L'époque de Ceausescu, tout ça, un des derniers grands prêtres communistes.
Je sais qu'en Roumanie, beaucoup de gens parlaient le français il y a une dizaine d'années.
Le pays en reconstruction.
Que le pays s'enfonce aussi dans une problématique, je dois dire, qui m'échappe un peu.
C'est des gens aussi, c'est des gens gentils, c'est des gens bien, mais j'ai un très mauvais concept des Roumains.
Sacré français.
Voilà, c'était le passage piéton réalisé par Mickaël. Merci Mickaël. On va commencer, tiens, par Christelle. Christelle, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce passage piéton?
Le poisson.
Le poisson, la morue.
Oui, oui. C'est, non, mais c'est vrai. C'est quand on passe au Portugal, c'est le plat. C'est le. Il y a, je sais pas, une centaine de plats qu'on peut faire avec la morue. C'est incroyable. Même si je suis pas une grande fan de poisson, mais il y a des bons plats, ça c'est vrai. La gastronomie portugaise, c'est vrai qu'elle est connue pour être très très bonne. Alors c'est normal que ça revienne. Et après le foot, mais bon ça c'est
ouais,
ça,
le
c'est
foot
normal.
Ça revient beaucoup.
Oui ça c'est vrai. Ronaldo, c'est vrai qu'il a mis le Portugal dans la bouche de tout le monde, toujours qu'on pense au foot. Alors.
C'est un des meilleurs joueurs européens
c'est
aussi,
clair.
C'est pour ça
du
que...
monde même.
Du monde, je sais pas. Il y a un débat avec
non,
Messi.
Non, mais non, c'est le meilleur du monde.
Il y a le fado aussi. Oui. J'ai entendu dans le micro trottoir. C'est une culture. Le fado, c'est important dans la culture portugaise.
Ah oui, carrément. C'est patrimoine mondial de l'humanité. C'est le seul type de musique qui est considéré comme patrimoine mondial. Alors ça, c'est déjà très très important pour la culture portugaise. Et le fado, il est vraiment lié à deux villes au Portugal. Lisbonne et Coimbra, c'est plus dans le centre du Portugal. Et c'est vrai que c'est lié à la personnalité des Portugais. C'est lié au mot saudade, que c'est une espèce de nostalgie. Oui, c'est une musique que même si même pas tous les Portugais aiment le fado. Alors c'est assez controversé en termes de goût. Moi, j'adore le fado. C'est une musique qu'on entend qu'au Portugal. Alors c'est vraiment ça. C'est à nous. Alors.
C'est vraiment. C'est, ouais. Ça fait partie du patrimoine.
Oui, oui, carrément, oui.
Et alors les poils? Parce que les poils aussi, c'est revenu.
Ça, c'est marrant parce que c'est un truc que depuis que je suis arrivée en France, j'entends beaucoup parler, mais on n'a pas cette conscience au Portugal parce que c'est pas comme ça, quoi. Mais je pense que ça, c'est lié au fait que la France, elle a beaucoup de Portugais venus dans les années 60-70. Et c'était des personnes différentes avec une mentalité différente des personnes actuellement qui habitent au Portugal. Alors peut-être c'est les femmes qui s'en foutent un peu
ouais, plus naturel.
Voilà, tout à fait, mais c'est
non,
pas
parce
comme
que
ça
quand on regarde Cristiano Ronaldo, je crois pas qu'il soit très poilu.
Voilà, tout à fait, voilà.
C'est l'exemple même du comment on appelle ça là, les hommes qui s'occupent beaucoup de leur corps,
oui.
Je me souviens plus trop, ça va me revenir pendant l'émission. Roxana, toi qu'est-ce qui t'a marqué dans le passage piéton?
Donc, bien sûr, il y a le côté, on dirait, de stigmatisation des Roumains en France, qui est évident dans les dernières années. Mais aussi, c'est vrai, il y a des gens très gentils en Roumanie, très accueillants et tout ça. Et aussi, oui, c'est vrai, c'est un pays en reconstruction. Et donc, la période communiste, elle était, elle a marqué, en fait, le processus de développement de la Roumanie. Et donc, maintenant, depuis cette période-là, il y a déjà 24 ans de transition vers la démocratie et dans un pays, normal, on dirait, dans le contexte européen. Et oui, donc la Roumanie essaye de se retrouver et de trouver donc
on va trouver le mot, t'inquiète pas. Je voulais revenir sur la relation avec la France. On entendait dans le micro-trottoir, il y a des liens particuliers avec la France. Il y a une bonne image de la France apparemment en Roumanie. Est-ce que tu le ressens, toi?
Oui, donc par tradition, la Roumanie est un pays francophone. Et donc, il y a, on retrouve dans l'histoire des personnalités marquantes de la Roumanie qui ont été de exponents de la culture et de la langue française. Mmh. Et si on parle des exemples de sacres, on dirait Ionesco, Eugène Ionesco, qui est à l'origine roumain, et maintenant la France, il est français.
C'est vrai, on se le réapproprie. Il y a le sculpteur aussi,
oui. Brancusi.
Brancusi,
oui. Oui,
très
Brancusi
célèbre.
Aussi, oui. Choran, le philosophe, Émile Choran, qui est aussi plus français maintenant que roumain.
C'est ça, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que les Français, nous, on se réapproprie les bonnes choses, les grands auteurs, les grands artistes. Mais il y a aussi d'autres choses en Roumanie. Alors, on n'en a pas parlé dans le micro-trottoir. Je pensais qu'ils allaient l'évoquer. Mais Dracula, le conte de Dracula, ça a été, c'est un auteur anglais qui
Bram Stoker.
Voilà, c'est ça, qui a repris un mythe. Oui. Est-ce que les touristes, par exemple, quand ils viennent en Roumanie, ils espèrent rencontrer Dracula?
Bien sûr.
C'est vrai?
Oui.
C'est marrant, ça. C'est drôle. Et il y a un commerce tout autour de ça.
Oui.
Est-ce qu'on vend des gousses d'ail? Est-ce qu'on vend, je sais pas, des sachets de sang?
Oui.
Non?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Ah d'accord.
Donc c'est le château Bran, s'appelle Bran. Le château Bran, il est situé. Oui, le château, il est situé en Transylvanie.
Moi, je pensais que c'était une pure fiction, tout ça. Il avait inventé, il avait pris un
donc,
personnage.
Donc, non, le château existe. Il était habité et construit par une grande figure de l'histoire médiévale qui s'appelle Vlad Dracul. Bon, donc, c'était ça, en fait, sa manière
Mais est-ce qu'il était poilu ou pas? Le comte Dracula, il était poilu? Non, je rigole par rapport
à... non, je sais
on
pas.
Sait pas.
Non, mais ça me rappelle l'histoire de Dracula parce que ils font des fêtes pendant l'Halloween, mais c'est un endroit touristique, la Transylvanie, parce que j'ai vu qu'ils font vraiment des voyages pour le Halloween au château, ils font des fêtes et tout ça. Ça doit être intéressant.
Je vous propose, on ira pour Halloween.
Pour l'Halloween, pourquoi
plaisir.
Pas.
Et on dansera peut-être sur une musique. Alors, on a une tradition dans cette émission, Roxana, c'est de laisser les invités choisir la programmation musicale. Pour commencer, je te propose de choisir, toi, Roxana, entre deux artistes roumaines, ce sont deux filles. Il y a Paula Selink.
Oui.
Je prononce bien Paula Selink?
Oui, Paula.
Paula Selink avec Shift, qui chante Ardé. Ou alors Loredana Groza avec Bjuni Vinu. Rougioludi. C'est très dur à prononcer ça, mais je trouve ça drôle. Voilà, comme tu as dit, et qui est une reprise de Maria Tanase, c'est ça?
Oui.
Alors qu'est-ce que tu choisis entre les deux?
C'est difficile.
C'est dur, hein?
Paula Selink, elle est originaire de Baia Mare.
Exactement, c'est pour ça que je l'ai choisie.
Oui.
C'est une animatrice d'ailleurs de télé aussi, elle fait beaucoup de choses.
Oui.
Et elle va représenter l'Eurovision, je crois, en 2014.
Oui. Mm-hmm. Et Loredana, elle est aussi une de mes préférées. Et aussi, elle est très connue pour la reprise des chansons de Maria Tanase.
Je propose d'écouter d'ailleurs 30 secondes de la chanson originale qu'on va peut-être écouter.
Oui.
Ne vino
Voilà, c'est l'Edith Piaf roumaine, oui. Si on peut la désigner comme ça.
Elle est nommée comme ça.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu préfères de ces deux chansons?
Je propose Loredana pour voir la différence, la réinterprétation de la chanson originale.
Bon, bah, ça tombe bien, on écoute ça sur Radio Campus Paris 93.9. Voilà, c'était le morceau Biuni Vinu Giluguliguliguli qui veut dire quoi, Roxana?
C'est très bon le vin.
Ah, c'est ça, ça veut dire? Ah, d'accord, moi je croyais que ça voulait dire
qui
bienvenue.
Fait, ah, je croyais que c'était. Sentir bien.
Ah, d'accord, je croyais que c'était bienvenue à Gourguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguigu
c'est une musique de fête. C'est une musique populaire de fête.
Ça s'est entendu, hein.
Oui.
C'était vachement bien. Donc vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 dans Itinéraire croisé de Lisbonne à Baia Mare en compagnie de nos deux ambassadrices. Celle que vous venez d'entendre, c'est Roxana, la roumaine, et l'autre ambassadrice, c'est Christelle. Hola Christelle.
Hola.
Todo bem?
Todo bem.
Todo bem. Alors pourquoi ce choix d'ailleurs, Roxana? Pourquoi tu as choisi elle plutôt que l'autre? C'était Paola Selling.
Non, j'ai choisi ça parce que donc on a mis
Maria
Tanase et c'était très intéressant pour voir la différence en fait. Ouais. Et Loredana, elle a mis en place des spectacles, des complexes spectacles sur cette thématique de musique entre les deux guerres mondiales. Mm-hmm. Donc,
c'était une bonne reprise, c'était amusant, moi j'ai bien aimé. On a découvert, on aura une musique portugaise à la fin de l'émission aussi, ne t'inquiète pas Christelle, d'accord. Je vois dans tes yeux que tu attends comme ça, mais ça va être sympa aussi. Il est temps de s'intéresser aux points communs de vos deux pays dans la chronique croisée. C'est très dur à dire, ça, chronique croisée. J'y avais pas pensé, mais chronique croisée, c'est compliqué. Vos deux pays font partie de l'Union européenne. Pour le Portugal, c'était très tôt, en 1986, après 40 années d'une dictature sous Salazar. Vous avez intégré la communauté européenne. Pour la Roumanie, Roxana, vous avez adhéré à l'Europe, mais plus récemment, après le régime dont on parlait tout à l'heure, le régime communiste. Ce n'est qu'en 2007 que la Roumanie rejoint officiellement l'Union européenne, alors que la demande était 10 ans, peut-être même un peu plus avant. Bien que vos deux pays font partie de l'Union européenne, les relations sont parfois difficiles, alors pour des raisons différentes. On va commencer par Christelle. Chez toi, au Portugal, la raison, c'est plutôt économique.
Oui.
C'est-à-dire que l'Europe a peur de voir au Portugal ce qui s'est passé déjà dans la crise grecque, c'est qu'elle ne puisse pas rembourser toutes ses dettes. Mm-hmm. Alors là, le pays tente de racheter sa dette et semble-t-il, depuis la dernière émission qu'on a faite, le Portugal semble sortir la tête de l'eau petit à petit. Et est-ce que ça, c'est des raisons d'espérer et de se dire finalement, l'Europe, on va pas suivre le modèle grec, on va s'en sortir en fait. Mm-hmm. Est-ce que tu vois un message d'espoir du côté portugais ?
Oui, moi je pense que le Portugal va s'en sortir. Quand vraiment, je ne sais pas, parce que même s'ils ils vont réussir à rembourser la dette à Troïka, ça c'est sûr. Mais le problème au Portugal, c'est qu'on n'est pas en train de suivre la Grèce dans le sens où on a emprunté, c'est sûr. Mais depuis le juste moment où on a emprunté de l'argent, le Portugal a mis en place, ils ont remonté les impôts.
Des coupes budgétaires.
Voilà, tout à fait. Ils ont mis en place, ils se sont dit, ok, on va emprunter, mais on va déjà faire des trucs qui nous permettent de rembourser tout de suite l'argent quand on aura la possibilité.
En début de semaine, pardon, il y a eu une réunion avec les autorités portugaises qui ont annoncé qu'ils avaient remboursé déjà une partie de la dette qui s'élève quand même à 78 milliards qui a été empruntée en 2011. Elle avait emprunté ça à la Troïka, la FMI, le FMI, pardon, le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Et cela laisse à penser qu'on est dans une phase de transition parce que c'était en 2014 et 2015 qu'ils devaient rembourser.
Le problème au Portugal, c'est que ces mesures-là, qui ont été appliquées il y a 2 ans à peu près, quand ils ont fait le grand emprunt à Troïka, c'est que le Portugal, il est passé par une période de chômage énorme, du jamais vu au Portugal.
15% un peu plus de 15%,
oui,
je crois,
et
de la population.
Et surtout que le taux qu'ils mettent dans les journaux, c'est pas le vrai. Parce qu'on oublie que le fait qu'on est dans l'Union européenne, on peut sortir du pays très facilement sans rien dire au pays. Et on voit le problème à Portugal, c'est que tous les jeunes diplômés, ils sont en train de partir du Portugal. On est en train de perdre la main d'œuvre de...
Exactement,
tout ça.
Exactement, Christelle, il y a un cinquième de la force ouvrière, d'après José Cesario, pardon pour l'accent, c'est le secrétaire d'État aux communautés portugaises, qui dit que voilà, en fait, le pays se dépeuple, ses travailleurs, ils partent en fait. Alors il dit, lui, que c'est pour des métiers comme l'hôtellerie, le bâtiment, pour faire le ménage, et que ces travailleurs-là, ils quittent le pays. Est-ce que, donc toi, tu le constates alors ?
Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, en fait, je viens d'arriver du Portugal jeudi dernier, la semaine dernière, et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'amis que j'avais il y a un an qu'ils étaient là-bas, ils ne sont plus là-bas, et ils sont partis avec des licences d'ingénierie, de chimie, des licences assez... réputé,
parfois,
voilà.
Oui.
Mais ils partent à Londres ou même sur Paris ou en Allemagne pour faire des travaux qui sont pas liés à la licence. Mmh. C'est-à-dire, le Portugal, il a formé des personnes dans des métiers assez réputés, mais il n'y a pas d'emploi. Alors, ils préfèrent aller gagner 1000 euros dans un travail qui n'a rien à voir avec leur licence. Et ce problème au Portugal, c'est ça, c'est que l'État portugais a investi dans l'éducation de milliers de jeunes les dernières années. Ils sont en train de perdre l'investissement parce que les jeunes, ils sont en train de partir. Et le problème au Portugal, oui, on va rembourser la dette, mais après le rembourser la dette, je ne sais pas comment le Portugal va rester parce qu'on n'a plus de jeunes, on n'a plus de travail. Et c'est la crise.
Avant de revenir sur justement les coupes drastiques budgétaires qui ont fait d'ailleurs se défiler, par exemple, des policiers, des militaires, du personnel d'hôpitaux, par exemple, qui ont beaucoup défilé cette semaine. Je voudrais qu'on passe à la Roumanie. Alors, la Roumanie, je le disais, ça fait partie de l'Union européenne seulement depuis 2007.
Oui.
Pourtant, avant, il y a eu des accords de coopération. Et depuis janvier même 2014, il y a une nouveauté, c'est que les Roumains peuvent venir travailler en France, par exemple, ici. Mais pourtant, ils ne font pas partie de l'espace Schengen. J'ai noté, il y a le ministre roumain de l'Intérieur qui dit « Nous sommes prêts à intégrer Schengen quand vous le serez de votre côté ». Et quand il dit « vous », il parle aux Français, il parle aux Allemands, il parle notamment aux Hollandais qui ont posé un droit de veto pour pas que l'espace Schengen soit ouvert aux Roumains. Comment est-ce qu'on le vit, ça, du côté roumain ? Est-ce que c'est pas une injustice, un petit peu ?
Ben,
Donc, je vais essayer d'analyser ça.
C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Mais je vais essayer de comprendre les deux parties, en fait. Donc, la Roumanie est en processus de reconstruction. Et donc, on veut montrer et démontrer que, voilà, on est bien un pays qu'on peut assurer, en fait, l'exode des gens bien. Des gens qualifiés, des cadres, des gens éduqués. Ils sont des représentants vrais de la Roumanie à l'étranger. Donc, on doit gagner, en fait, la confiance de les pays de l'Ouest pour avoir leur
accord. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que ça, la vraie raison, enfin, les raisons officielles qui poussent les pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la France à ne pas accepter que la Roumanie fasse partie de l'espace Schengen, c'est notamment la corruption. On dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de corruption en Roumanie. Par exemple, Christelle, ce que j'ai lu sur la Roumanie, c'est que si, par exemple, tu montes dans un train ou dans un bus, eh bien, personne n'achète de ticket. C'est quand le contrôleur vient qu'il lui donne la moitié du prix du ticket. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, Roxana? Est-ce que la corruption, elle est développée à tous les étages, du gouvernement jusqu'à la population?
Bah ouais. Bon, donc, malheureusement, il existe dans la mentalité collective, il existe ce concept, voilà, de donner quelque chose, voilà, on va s'en sortir et tout ça. Et
c'est les conséquences du communisme, ça,
oui,
un petit peu.
Oui, oui. Et ça, c'est comme une caractéristique, on dirait, du peuple roumain. Ça vient aussi, c'est natif même, parce que à n'importe quel pays où il se trouve, bon, le Roumain, il va s'en sortir, il va trouver le bon chemin et pour
une solution
pour obtenir son objectif ou tout ça. Et donc, ça vient d'une
C'est le côté débrouillard, en fait. C'est le côté débrouillard, c'est ça que tu veux dire, Roxana?
Oui,
c'est que en Roumanie, on se débrouille toujours pour arriver à notre fin, c'est ça?
On est obligé. On est obligé de faire ça. Mais oui, il y a un problème avec la corruption. Donc, ça vient aussi de ce long processus d'intégration.
C'est vrai. Ouais. Mais il y a d'autres raisons aussi. Alors, peut-être que celles-là ne sont pas officielles de raisons, mais officieuses. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion. D'ailleurs, dans le micro-trottoir, on l'a ressenti un petit peu. Il y a une confusion entre, d'un côté, les Roms et les Roumains. Et pourtant, ça n'a rien à voir, ni historiquement, ni culturellement, les Roms, qui sont les tziganes, les gens du voyage.
Les gitans, les gens du voyage.
Exactement. Oui. Et les Roumains, même s'il y a 1,5% de la population qui est composée de Roms en Roumanie, mais Roms et Roumains, ça n'a pas du tout même chose.
Non, non, pas du tout. Donc, les Roms de Roumanie sont la plus grande minorité ethnique. Et donc, les Roms, ils sont plutôt visibles et donc nombreux en Roumanie et Bulgarie. Donc, au pays de l'Est. Et donc, c'était ça. C'est pas notre faute qu'ils ont choisi de s'installer là-bas.
Ah, c'est vrai.
Et après, donc, oui, bien sûr, ils ont la citoyenneté roumaine. Ils sont Roms roumains ou Roms bulgares. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir mettre dans la même
catégorie
Roms et Roumains. Mm-hmm. Et c'est ça la méfiance, je pense, de les gens de l'Ouest.
Les autorités,
Français,
par exemple, françaises, hollandaises ou anglaises. Oui. Parce que le salaire moyen en Roumanie, Christelle, pour que tu saches, le salaire déjà, il n'est pas très fort au Portugal, malheureusement.
C'est le même, je pense.
Je crois que c'est pareil parce que j'ai lu 2250 lei. Lei, c'est la monnaie roumaine, ce qui représente à peu près 500 euros.
Oui.
À peu près. Et donc, peut-être que c'est ça qui fait peur aux autorités anglaises de voir débarquer sur leur territoire une force de main-d'œuvre, comme on disait tout à l'heure, qui coûte beaucoup moins cher et du coup de retrouver un chômage qui est beaucoup plus élevé. C'est peut-être ça qui fait peur et qui, notamment, a fait la campagne du Daily Mail Express. On en parlait un petit peu avant l'émission, mais pour les auditeurs qui écoutaient maintenant, en Angleterre, il y a eu carrément une vague propagande. Moi, je vais utiliser le mot. C'est des journaux qui publiaient chaque fois des articles pour expliquer que, attention, les Anglais, chez nous vont débarquer 19 millions de Roumains et de Bulgares. Faites attention, ils vont prendre notre travail. Un peu le discours du Front National qu'on entend ici en France.
Oui.
Et ce qui est choquant, c'est que il y a une peur, en fait, il y a une peur de l'Est, alors que pas du tout. Il y a aussi des travailleurs qui sont qualifiés. Et notamment, on avait un petit débat juste avant l'émission, Roxana, pour dire, il y a aussi, par exemple, des Français, des étudiants français qui partent en Roumanie pour faire leurs études, notamment en médecine. où en France, le concours de médecine, Christelle, je ne sais pas si tu sais, mm-hmm. mais c'est un concours. C'est seulement, il y a numerus clausus.
Oui.
C'est seulement les meilleurs qui ont leur première année. Si vous redoublez deux fois la première année, ben hop, c'est fini.
C'est fini, oui.
Vous ne pouvez plus faire, mm-hmm. par exemple, pharmacien, dentiste ou les métiers liés à la médecine. Et donc, du coup, ils vont payer, par exemple, 4 000 à 5 000 euros
oui.
pour faire 6 années d'études en Roumanie.
Oui.
Dès la première année, les étudiants apprennent à travailler sur des cadavres,
oui.
par exemple.
Oui.
Chose qui est impossible en France. Il n'y a que la troisième année où on commence à étudier le corps oui. humain. Et, enfin,
c'est une pédagogie très appliquée et pratique.
Pourquoi est-ce que dans un sens, on dit bah non, fermer les frontières, on ne veut pas que Schengen s'applique aux Roumains. Et de l'autre côté, on envoie quand même nos étudiants. C'est un peu... c'est bizarre, quoi. Non, tu ne le ressens pas comme ça, Roxana?
Bah... oui, bon, il y a cet écart, on dirait, d'attitude vers son pays. Mais d'un côté, je pense qu'on est dans la bonne direction. Parce que, voilà, si on la confiance de les parents, par exemple, les parents français, si on dit, voilà, je veux envoyer mon enfant
ça étudier, va changer l'image
étudier, bien sûr, étudier à l'étranger, étudier en Roumanie, je fais confiance à cette université mm-hmm. que mon enfant, il va être un bon médecin, et tout ça. Donc, je pense qu'on a des points
à gagner,
plus,
oui.
Mais pour c'est... améliorer... la situation et l'image de la Roumanie à l'étranger. Et c'est à travers, en fait, les Français qui vont en Roumanie et après qui vont venir de retour, ils vont rentrer en France. Ils vont dire, voilà, mais c'est pas du tout comme ça.
Roxana, il y a une grande majorité des Roumains qui souhaitent rester dans leur pays, travailler, même si le niveau des salaires est moins important. C'est pas le but, c'est pas leur but, en fait, aux Roumains.
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont décidé de rester là-bas, mais c'est pas bon. Il y a tous les niveaux de salaire en fait, et la majorité des gens qui sont venus à l'étranger en fait, et ils sont venus pour on dit ça en sociologie migration de retour. En fait, donc ils sont venus pour une période limitée, déterminée, mmh. et donc ils vont rentrer en Roumanie. Donc c'est pas.
Et comme on l'a dit, ils peuvent apporter parce qu'ils sont très qualifiés, comme au Portugal.
Oui.
Quand Christelle parlait des études qualifiées, c'est pas pour rien que les Français en médecine vont dans l'université de Cluj. C'est
oui.
que vraiment, il y a un niveau important.
Oui.
C'est le moment de refaire une pause musicale dans Itinéraire Croisé, alors avec la programmation de Radio Campus Paris. Tikan Manager, qu'on va écouter tout de suite sur Radio Campus Paris, et on se retrouve pour la dernière partie d'Itinéraire Croisé de Lisbonne à Baia Mare.
Et tandis qu'il cherchait un campanile que jamais il ne trouva, Jack le manager rencontra Nick le coq dans la fosse à Purin d'un camping municipal à la ferme, dans les Alpes. À le voir ainsi tremper ses petites pattes et son bec de volaille frénétique dans la vase, à l'affût de quelques victuailles, laissées là par mégarde par des poules surfriquées, Jack se dit qu'il avait affaire au coq de combat le plus malheureux que la terre ait jamais porté. Mais il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. J'aime ton style un peu pouilleux, ton regard plein d'aigreur. Si tu veux, je peux devenir ton chicken manager. C'est pas du catch, du sinoche, c'est du fight à la dure. Et la devise, pas de pitié, ta meilleure armure. Les coups bas sont conseillés et ton honneur, tu le ranges. Tu, l'obsession qui te ronge. Pas un stratagème qui dit, aime ton ennemi. Je veux lire de la haine dans tes yeux jaunis. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire.
Voilà, c'était le groupe Alexis HK avec Chicken Manager sur Radio Campus Paris 93.9. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Itinéraire Croisé de Lisbonne à Baia Mare. C'est l'émission qui s'intéresse aux cultures d'ailleurs. Pour revenir au Portugal, il y a des problèmes aussi d'argent parce que ces coupes budgétaires dont on parlait, Christelle. Par exemple, j'ai lu un article où il y a un sergent dans l'armée qui expliquait que depuis l'année dernière, son salaire il est passé de 1 400 euros à 1 100 euros. Mmh. Quand on sait que, par exemple, on parlait là des études en Roumanie, quand on sait que les études pour envoyer un enfant à l'université, c'est entre 2000 et 2400 euros, on sent que les Portugais sortent la tête de l'eau, mais j'ai envie de dire à quel prix ?
Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que, alors, les universités aussi, l'année dernière, en septembre, ils ont ressenti qu'il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent pas faire l'université parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, soit ils choisissent de partir à l'étranger, comme moi j'ai fait en 2010, parce que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de me payer 2000 et quelques euros par an. Et en fait, au Portugal, il y a aussi la problématique des études, c'est que l'université au Portugal, elle est très haute qualité, on ne peut pas se plaindre, on reste avec une bonne licence, avec des bonnes connaissances. Elles sont même, j'ai envie de dire, en comparaison avec Paris, peut-être elles sont encore mieux, les universités à Lisbonne. Mais elles sont faites pour étudier seulement. C'est impossible, très difficile au moins, d'étudier et travailler à côté. Alors un étudiant qui fait ses études au Portugal, les parents, ils doivent payer l'université, les transports, tout à l'étudiant. Alors soit ils choisissent de pas faire des études, c'est ce qui est en train d'arriver au Portugal. Les personnes qui restent au Portugal, ils préfèrent aller travailler que faire ses études, soit ils partent à l'étranger. Alors ça rentre dans la problématique de, on est en train de rester sans jeune, il n'y a que des personnes âgées au Portugal. C'est très très grave, ça va se sentir d'ici quelques années dans la vie quotidienne au Portugal. Et le fait des salaires, c'est, oui, on gagne encore moins parce que le salaire moyen, le SMIC au Portugal, c'est de 475, je crois, quelque chose comme ça.
475 euros.
Ouais, par mois. Ouais. Et du coup, c'est encore moins qu'en Roumanie, je pense.
En Roumanie, c'est les salaires moyens.
Ah, ouais. D'accord, ok.
C'est carrément le
SMIC,
moyen.
C'est environ 200.
Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, on gagne très, très peu. Et le niveau de vie, c'est à peu près pareil que le reste de l'Union européenne. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans l'euro. Et quand ils ont fait l'euro, ils ont oublié de uniformiser les niveaux de vie dans les pays. Alors, on reste avec une monnaie pareille en France, en Belgique, en Allemagne, qu'on n'a pas du tout le même niveau des autres pays. Et les coupes budgétaires au Portugal, c'est le problème. C'est que
pour appuyer ce que tu dis, Christelle, le Portugal est même le pays européen avec le plus grand pourcentage d'émigrés derrière Malte. C'est-à-dire que selon les statistiques de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, en 2013, 120 000 travailleurs portugais ont quitté le pays. C'est énorme, 120 000.
C'est énorme. Et quand tu vois la taille du Portugal, il est tout petit. C'est très, très grave. On est en train d'arriver. C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. On va sortir de la crise. Ça, c'est sûr. On va payer notre dette parce qu'on est têtu, on va réussir. Mais à quel prix ?
Parce que c'est ça. Mais juste une dernière chose, et puis après on fera la pause musicale. Là, on va fêter les 40 ans, le 40e anniversaire de la révolution des œillets qui avait.
25 avril.
Ouais, c'est ça, qui avait permis justement de sortir de la dictature
de Salazar.
De Salazar, exactement. Mm-hmm. Et on a vu en début de semaine, des militaires défiler. Est-ce qu'on n'a pas peur quand même au Portugal qu'à un moment. La révolution se remette en marche d'un coup et que finalement, à force de tirer sur la corde et de devoir rembourser, il va y avoir une révolution, quoi. Est-ce qu'on peut arriver à ce type de scénario ?
Il y a des personnes qui parlent de ça, mais moi, je ne crois pas trop à ça. Seulement parce que les Portugais, même si c'est la crise, on ne peut pas comparer la situation avec la dictature. Alors déjà, les Portugais, c'est assez récent notre histoire de la dictature, c'est 40 ans.
Bah oui.
Les personnes, ils n'ont pas encore oublié ce qui s'est passé.
C'est dans les mémoires encore.
Voilà. Oui. Du coup, ils savent que même si c'est la situation, elle est comme ça aujourd'hui. Il ne veut pas revenir à ce que c'était. Alors, je pense que même s'il manifeste, c'est pour essayer d'évoluer et pas de revenir en arrière. Alors, ils ont la notion que, OK, on est dans une situation très problématique, mais il faut avancer et pas revenir en arrière. Alors, ils ont conscience de ça. Je pense qu'une révolution,
non.
Oui, mais pas dans ce sens-là.
Pas dans ce sens. Oui. On a nos deux ambassadrices, j'ai du mal à terminer ce dimanche soir avec vous, Roxana et Christelle. Il est temps désormais de s'intéresser à leur parcours à Paris.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Alors les filles, ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes à Paris ? Toi, tu nous disais c'était en 2010 ?
2010, oui.
2010, donc 3-4 ans maintenant
que
tu es à Paris.
Ça va faire 4 ans en septembre 2014.
D'accord. Et pourquoi tu es venue à Paris exactement ?
Pour faire mes études, pour faire la licence en communication à Paris 3. Et j'ai choisi Paris parce que c'est Paris. Pas grande raison.
Qu'est-ce qui te plaît dans la capitale
française ? Tout, surtout la culture. Il y a tellement de trucs à voir. Et des fois, on rate des expositions et des, et des choses qui se passent parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais c'est magique. Le fait qu'on a toujours quelque chose à faire. On ne s'ennuie jamais à Paris.
Alors qu'au Portugal, peut-être, c'est plus la culture des loisirs, c'est ça ?
Oui, oui, c'est vrai.
Des jeux, de la fête, en fait.
Mais... Oui, c'est plus la culture d'être dans la rue. C'est plus... Il y a pas vraiment... Il y a beaucoup d'expositions aussi, mais... C'est différent, c'est pas vraiment publicité comme à Paris. Alors on n'a pas vraiment la notion de ce qui se passe à Lisbonne culturellement. C'est une approche différente.
Et du coup, Roxana, toi, oui. Ça fait combien de temps donc tu...
Cette année, 5 ans. Mm-hmm. Je suis arrivée en 2009. Et pour moi, donc, c'était vraiment une opportunité, une surprise. Donc j'étais en master à Cluj, en philosophie. Et... J'ai fait mon projet de licence sur l'anthropologie du corps et j'utilisais beaucoup de bibliographie en français. Et donc, mon prof de l'université, il m'a dit, voilà, Roxana, j'ai une bourse à te proposer pour étudier 10 mois à Paris.
C'est cool, ça, ouais.
Et si tu veux bien profiter de ça. Et donc, oui, j'ai dit, pourquoi pas, ce sera une expérience. Et après 10 mois, je suis rentrée en Roumanie et en 2 mois, je me disais, non, je dois rentrer à Paris, de nouveau à Paris, parce que il me manque.
C'est vrai.
Et depuis, je suis ici depuis 5 ans. Mm-hmm. Et j'ai continué les études et le travail. Et donc, pour moi...
Tu t'es sentie oui. Comme chez toi à Paris, en fait, comme chez toi en France.
Presque. Mais il était, je me suis intégrée et j'ai senti, en fait, il me manquait. En fait.
Et comment t'as fait pour t'intégrer ? Tu parlais déjà français en Roumanie,
oui,
c'est
oui,
ça ?
Oui, oui, oui. Bon, j'ai parlé parce que c'était la deuxième langue étrangère. Et après, j'ai fait beaucoup des amis du Maghreb, en fait, qui ont décidé de faire les études de médecine à Cluj. Et donc, j'étais dans une cercle d'amis.
À Cluj, hein.
Oui, d'amis, on dirait cosmopolites, comme ça.
Mais qui parlaient français, coup, qui étaient francophones.
Oui, oui, francophones. Et donc, c'était comme ça, c'était un peu facile de m'intégrer ici. Et bon, ici, il y a aussi des gens très ouvertes et qui ont des bonnes relations avec les Roumains, en fait, les associations roumaines et tout ça. Et donc, c'était bien.
Et quelle différence il y a entre là où vous venez, donc au Portugal, et les Français ? Qu'est-ce que tu sens qu'il y a comme différence, Christelle ?
Les Français, vraiment,
ouais.
Les personnes ?
Ouais.
Je pense que les Portugais sont plus ouverts que les Français. En termes de... on commence par exemple le fait de faire la fête et tout ça. Ils sont plus accueillants. Et je sais qu'au Portugal, s'il y a un étranger qui est tout seul à Lisbonne et il est dans un bar tout seul en train de prendre son verre, c'est presque sûr qu'il y a un groupe de Portugais qui va débarquer à côté de lui en disant « Oui, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, tu veux venir avec nous faire la fête et tout ça ?» Et j'ai senti que les premiers temps à Paris, ça a été assez difficile parce que j'étais habituée à une mentalité assez différente.
Ça, c'est parce que c'est Paris, on précise. Hein.
Oui, oui, tout le monde me dit ça, qu'il y a vraiment... c'est Paris, après il y a le reste de la France.
Peut-être c'est plus froid, c'est plus individuel.
Oui. Et c'est marrant parce que Lisbonne, c'est aussi la capitale du Portugal et c'est pas du tout comme ça. Alors, mais bon, après passer ce premier choc, Paris, ça devient une ville magique et les Français, j'ai rien à dire contre. Ça.
D'accord. Voilà. Roxana, toi, que tu m'as dit en remplissant la fiche des invités, tu m'as dit que nous, les Français, on aime bien se prendre la tête, en fait.
Oui.
Qu'on n'est pas, dans certaines situations, on prend pas de décision directe.
Oui.
C'est ça ?
Oui, oui. Ça, j'ai observé depuis le premier jour en France, en fait. Donc, c'était très drôle de voir comment vous aimeriez compliquer, en fait, la vie.
Compliquer les choses.
Oui. Et donc, décision facile.
Dis-moi un exemple, comme ça, les auditeurs vont comprendre.
Je sais pas. Je veux acheter de l'eau, par exemple. Mm-hmm. Mais je sais pas. Je dois réfléchir. Mais quelle eau ? Mais de l'eau, ça ou ça ? Et ça, c'est caractéristique, je pense.
Des Français ?
Oui. Oui.
C'est drôle, c'est marrant. Oui. Maintenant, ce que je vous propose dans l'itinéraire croisé, c'est d'écouter un morceau musical. Alors, c'est ton tour de choisir, Christelle. Il y a le choix entre The Legendary...
Tigerman,
exactement. Et l'autre titre, David Fonseca.
Fonseca. Ah ouais, c'est difficile. Déjà qu'il est venu mercredi dernier sur Paris, je vais choisir le premier, Legendary Tigerman.
On écoute tout de suite ça sur Radio Campus Paris 93.9. On va dire un petit mot sur les associations dans lesquelles vous participez. Roxana, toi, c'est la LSRS, ça veut dire quoi?
Oui, donc c'est la Ligue des étudiants roumains à l'étranger. Et donc, c'est une ONG roumaine qui a 8000 membres en croissance. Et on est organisé, on a le siège à Bucarest et après des filières partout dans le monde où on a des étudiants roumains, dans tous les continents. Europe aussi, donc Europe centrale, Europe occidentale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, et Australie.
Et c'est quoi le but en fait de l'association en fait?
Oui, donc dans les filières, on a des équipes actives, équipes exécutives qui organisent des événements majeurs pour les communautés locales.
Comme quoi, par étudiants, exemple, des soirées
Des soirées, expositions, de mentorat aussi, voilà, de découvrir en fait des ateliers, de découvrir la Roumanie, de promouvoir l'image de la Roumanie à l'étranger.
Comme toi aujourd'hui dans Itinéraire
Croisé.
Oui,
voilà. Et moi, en fait, dans cette association, je suis la vice-présidente des filières. Donc, moi mon équipe, on coordonne les activités de tous les 37 filières partout dans le monde. Et donc, c'est ça. Et le but de l'association, en fait, c'est donc de fournir un cadre ouvert vers le dialogue et l'action pour les étudiants roumains à l'étranger. Par exemple, s'ils ont des difficultés d'intégration, mais aussi on défend leurs droits. S'il y a des situations, de stigmatisation, des trucs comme ça.
On disait tout à l'heure, entre les Roms et les Roumains, par exemple.
Oui, mais on offre aussi de conseils juridiques s'ils ont de problèmes à l'école, mais ça arrive presque jamais. Et en fait, notre mission est de soutenir en fait l'attitude positive vers les retours en Roumanie. C'est ça.
D'accord.
Notre mission.
Mais est-ce que par exemple, si comme moi ou Christelle, on n'est pas roumain, on peut participer à l'association ou pas du tout? C'est ouvert qu'aux Roumains?
Bah non, on peut faire des partenariats. On a développé surtout dans les filières partout dans le monde. On a aussi une filière à Lisbonne et bon à Porto aussi, dans deux représentants à Porto et Lisbonne. Mais on fait des partenariats avec l'association de diaspora. En fait, l'association étrangère ou aussi bien roumain, roumaine qui se trouve là-bas, aussi avec les institutions de l'État roumain, l'ambassade et tout ça. Et on est ouverte vraiment à faire de partenariats.
Mais c'est chouette.
Avec,
comment on fait pour intégrer juste l'association?
Oui,
on
trouve tout sur le site.
Oui.
www.lsrc.ro.
On mettra un lien, ça sera peut-être plus facile pour les personnes. Si vous voulez adhérer à l'association, par exemple, vous allez sur le site de Radio Campus. Dans l'émission, là, le podcast, on mettra un petit lien, si tu veux.
Super.
Comme
super,
ça sera plus simple.
Super.
Et Christelle, toi, tu faisais partie des Voix Lusophones. Tu es toujours membre, d'ailleurs,
oui,
des Voix Lusophones.
Membre,
c'est quoi, les Voix Lusophones?
Voix Lusophones, c'est une association liée à l'Université Paris 3. Même si on peut être membre, même si on n'est pas étudiant à Paris 3, c'est pour toutes les personnes intéressées par la lusophonie, pas seulement pour le Portugal, c'est tous les pays de langue officielle portugaise, Portugal, Brésil, Cap-Vert, Angola, Mozambique, et aussi les Macao, bon, qui sont plus officiels, mais ils parlent aussi portugais. C'est en fait une association qui ressemble à tout ce qui est culture, tout ce qui se passe à Paris lié à des artistes ou des écrivains, des auteurs liés à la langue portugaise. C'est une association qui organise des rencontres, des sorties culturelles entre les personnes intéressées. Et c'est aussi un grand réseau sur Internet, sur le site voilosophone.fr, sur Facebook. Ils sont très présents, ils relient toutes les informations. Pour être membre, il suffit d'aller sur voilosophone.fr, il y a toutes les informations là-bas.
C'est facile, c'est
voilà.
Super. Bon, peut-être que je vais venir Enfin, nous, on fera un partenariat pour la LCLRS.
Waouh, super. C'est bon, public. Hein.
C'est ça.
Et on organise, oui. Juste deux secondes, on organise ici en France, on a développé un partenariat avec une association française, Croatie sans frontières. C'est l'association de la ville Croatie-sur-Seine. De France. Mmh. Et donc, c'est en fait un projet de développer les relations et la coopération entre les gens français et roumains. Et on a fait plusieurs phases de ces projets de jumelage entre les deux villes. Et on a fait donc la phase de se connaître, apprendre à se connaître pour construire ensemble. Mmh. Et donc, en novembre, on va faire une exposition trinationale au château Chanaurier à Croissy-sur-Seine. Une exposition de peintres roumains, français et allemands. Et donc, on vous invite là-bas. Et ce sera aussi un concert de musique classique avec deux étudiants de l'école baroque de Versailles, qui sont deux étudiants roumains. Et aussi un concert de piano. Et donc, sera vraiment exceptionnel. Et aussi un spectacle folklorique de Mara Mureș. Donc,
d'accord. D'ailleurs, sur les villes jumelées, juste avant de se quitter, tu savais que Baia Mare c'était jumelé à Hollywood ?
Oui.
Tu savais
oui,
ça ?
Oui, et avec comme la ville.
Ouais, tu vois, c'est marrant. Quoi. Voilà, c'était Itinéraire croisé de Lisbonne à Baia Mare. On va se retrouver dans deux semaines. La semaine prochaine, à la même heure, de 18h à 19h, il y aura Paul fait son cinéma. Tout de suite sur Radio Campus, c'est les récréations sonores. Merci Mickaël, merci à Christelle, merci Roxana. Et quant à nous, je vous souhaite une bonne fin de dimanche.